Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Que la Régence commence, Paris, capitale des arts et des lettres. Bien souvent, notre histoire est découpée en tranches, mais certaines sont plus fines que d'autres. Après le long règne de Louis XIV, 72 ans, la Régence ressemble à une fine tranche de 1715 à 1723, c'est-à-dire pendant la minorité de Louis XV. Une fine tranche, d'accord, mais quelle tranche ! Elle est tartinée de folles innovations, d'une formidable effervescence artistique, politique, littéraire. Quel contraste entre la Régence et la fin du règne de Louis XIV. Oui, le roi Louis XIV qui n'est pas en grande forme au mois d'août 1715.
Le 9 août, le roi parut plus abattu que de coutume. Quelques jours plus tard, il se plaignit d'une vive douleur à la jambe gauche et aussi d'un état fébrile. La jambe, visitée, ne montra qu'une légère rougeur au-dessous de la jarretière. On frictionna le roi, il prit bouillon et lait d'ânesse et continua, tant bien que mal, sa vie, jusqu'à ce qu'enfin, le samedi 24 août, la jambe se trouva noire jusqu'aux pieds. C'était la gangrène sénile, un mal qui ne pardonne pas et qui va vite.
On fit venir des médecins, mais soit qu'ils n'y connussent rien, ou que par esprit de prudence, voulussent en délivrer la France, ils l'ont mis dans le manuement, à notre grand contentement.
Louis XIV est enfin mort. Tout le monde est ravi. C'est ce qu'on entend dans cette chanson du XVIIIe siècle. Bonjour, José Louis de Los Llanos. Je le prononce bien. La mort de Louis XIV. On l'imagine comme un moment de tristesse pour le royaume. En fait, pas du tout. Tout le monde est soulagé de la mort de Louis XIV.
Alors, tout le monde, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas eu de sondage global sur la population française à cette époque-là. En tous les cas, elle était attendue. C'est évident, à son âge, 76 ans. Et il était malade, il était souffrant. Il avait commencé à préparer son départ, si je puis dire, en préparant notamment ses testaments depuis 1714. Et puis toute la famille royale, c'est un épisode qu'il faut rappeler, toute la famille royale a été touchée depuis 4 ans par une épidémie de vérole qui sévit à Paris, autour de Paris et à la cour de Versailles. Donc c'est la mort qui rôde à Versailles. Le 1er septembre 1715, quand Louis XIV meurt, c'est attendu et tout est préparé en quelque sorte déjà pour sa succession.
Alors je vous posais la question différemment, était-il un roi populaire en 1715 ?
À la fin de sa vie, non. De toute façon, la longueur de son règne, si je puis dire, fait que sa popularité s'est effritée. On voit ce qu'il en est aujourd'hui pour un président de la République qui tient à peine 5 ans en restant populaire. 72 ans de règne, ça use. Donc effectivement, à la fin de son règne, il n'était plus populaire du tout. Il avait en plus participé, enfin la France avait été engagée dans des campagnes militaires extrêmement dures et qui avaient ruiné le royaume. Donc les dernières années du règne de Louis XIV, d'un point de vue financier, d'un point de vue politique, sont assez catastrophiques.
Ulysse Jardin, bonjour.
Bonjour.
Louis XIV meurt, le roi est mort, vive le roi, la succession est une évidence en France. C'est son héritier d'ailleurs qui est, parce que Louis XIV a vu mourir enfant, petit-fils.
Oui, en fait, la famille est décimée et donc son héritier, en fait, son arrière-petit-fils, Louis XV, qui a tout juste 5 ans. Et Louis XV est une sorte d'orphelin, puisqu'en effet, autour de lui, tout le monde est mort très récemment, jusqu'aux dernières années du règne de son arrière-grand-père. Et il a même été, en quelque sorte, protégé. Puisque dans le vaste palais de Versailles, c'est dans des appartements lointains de ceux où se répandait justement la petite vérole que Madame de Ventadour, sa gouvernante, qui l'appelle d'ailleurs notamment Maman Tadour, et donc qui sera la seule femme qui va veiller sur lui durant le début des années de son règne, là vraiment lui a permis de ne pas être atteint par ces épidémies. Et le roi Louis XV est cet enfant qu'on dit d'ailleurs de santé fragile, et c'est face à la santé fragile de cet enfant qu'ensuite plusieurs parties vont arriver en présence, et que d'ailleurs le testament de Louis XIV va être cassé grâce au soutien du Parlement de Paris par Philippe d'Orléans, qui est en fait le grand-oncle de Louis XV et qui va assurer donc temporairement cette régence jusqu'à la majorité de Louis XV lorsqu'il aura 13 ans, qui va enfin être sacré et pouvoir exercer pleinement son rôle de roi.
Louis XIV avait prévu par testament sa succession, enfin c'est son arrière-petit-fils, hein, comme une évidence c'est Louis XV, mais il avait prévu, vu que Louis XV est tout petit, une régence testament du roi cassé. Toujours intéressant à repenser à ça, hein, l'omnipotence d'un roi, l'absolutisme. Non, il était possible de casser le testament d'un roi. Qu'est-ce qui n'allait pas, José de Lanous?
Quand vous dites qu'effectivement le testament a été cassé, il y a une disposition ancienne dans le royaume de France qui est que le roi ne dispose pas de son pouvoir. Il en hérite, mais il n'a pas la possibilité de le modifier ou de modifier la manière dont sa succession sera assurée. Donc c'est pour ça que le testament de Louis XIV est cassé, parce que dans son testament, il nomme son neveu, donc Philippe d'Orléans, régent, mais il donne aussi un certain pouvoir à un de ses fils illégitimes, légitimé, dit-on, un des enfants qu'il a eu avec Madame de Montespan, donc le duc du Maine, et qu'il veut favoriser dans son testament. Et le Parlement, donc au nom de cette disposition que le roi ne dispose pas de son pouvoir, considère que la légitimité doit revenir uniquement à la ligne légitime, et non pas aux enfants qu'il a eu avec Madame de Montespan. Donc casse le testament, donne la régence pleine et entière à Philippe d'Orléans, et dans un codicille de Louis XIV qui malgré tout est respecté, donc toute la cour va déménager à Paris.
Ça y est, la régence commence, la régence à Paris, 1715-1723, l'aube des Lumières, une exposition au musée Carnavalet à Paris. L'exposition qui s'ouvre avec une remarque historiographique de dire pendant longtemps cette période-là a été alors soit ignorée, soit survolée, soit critiquée comme une période de libertinage absolu. Il y a un retour historiographique, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau regard porté sur la régence.
Oui, tout à fait. Les historiens, il y a toute une génération de jeunes historiens qui se sont intéressés à cette période sous divers aspects. Laurent Lemarchand, par exemple, a fait sa thèse et publié un ouvrage important sur les conditions du retour du pouvoir à Paris. C'est vraiment un des éléments importants de cette période. Le pouvoir était concentré à Versailles par la volonté de Louis XIV depuis 1682, donc depuis une bonne trentaine d'années. Et ce retour à Paris, effectivement, est un événement tout à fait singulier, alors qu'il va engager toutes sortes de modifications, de perturbations, si je puis dire, dans le fonctionnement du royaume. Le duc de Saint-Simon, un des principaux critiques et commentateurs de l'époque, déplore la disparition de la cour. Donc il n'y a plus de 8 cours, par exemple, en revenant à Paris. Et d'autre part, et c'est l'accent sur lequel nous avons voulu mettre au musée Carnavalet, c'est le retour d'une cohabitation retrouvée, allais-je dire, entre le pouvoir politique et le pouvoir culturel. Le pouvoir culturel était resté à Paris, d'une certaine manière, le pouvoir politique revient à Paris lui aussi.
Ce renouveau historiographique évoqué dans l'exposition du musée Carnavalet à Paris, c'est exactement le même regard historique évoqué dans Les Allées Lumière, cette bande dessinée de la collection Histoire dessinée de la France à la découverte. Bonjour Pauline Lemec-Gaffier.
Bonjour à toutes et à tous.
Eh ben oui, c'est ça, dès le début aussi dans Les Années Lumière de la Régence aux États Généraux, il y a l'évocation de ce renouveau historiographique sur la période, alors la Régence bien sûr, 1715-1723, mais le 18e siècle en général.
Oui, tout à fait, avec mes co-auteurs, donc l'historien Raoul Markowitz et le dessinateur Simon Spruit, nous avons vraiment souhaité partager avec un public élargi ce renouveau historiographique, ces nouveaux regards sur les Lumières, donc qui ont permis de mettre au jour des moments plus oubliés ou plus critiqués, comme la Régence, mais aussi des types d'approches différents, et faire une histoire ouverte, une histoire de la France ouverte sur l'Europe, sur le monde, ouverte aussi à l'histoire des femmes et à l'histoire des gens ordinaires, à l'image du héros que nous nous sommes choisis, le commis voyageur de la Société typographique de Neuchâtel, Jean-François Favarger.
Favarger qui arrive de sa Suisse, qui vient en France. Lui, il veut faire un gros coup. Il a un but dans l'existence. Là, il dit qu'il y a un truc à faire dans l'édition.
Exactement. Donc, Jean-François Favarger, hein, dont la tournée en France en 1778 est documentée par son carnet de voyage, a des tâches commercial tout à fait classique. Hein. Il doit faire payer ceux qui doivent de l'argent à la STN, il doit placer les livres qu'édite la Société typographique de Neuchâtel, mais il doit aussi récolter de l'information, comme tout bon commis voyageur. Et il cherche aussi à faire des coups éditoriaux. Et en 1778, année de la mort de Voltaire, année de la mort de Rousseau, il y a plein de manuscrits à chercher, et notamment celui des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et donc nous nous sommes permis la liberté de mettre Jean-François Favarger à la recherche de ce manuscrit.
Et en cherchant ce manuscrit en 1778, il y a l'évocation de l'ensemble du XVIIIe siècle, et de la Régence, bien sûr. La Régence, pour beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, et moi le premier, c'est bien souvent par un film que nous la découvrons. Ce film, c'est Que la fête commence.
Ah, tu ne seras jamais mieux quand ça tire. C'est ton état naturel.
Vous m'aviez juré d'en finir avec ces mascarades, volaille de merde.
Mais tu n'en es pas fâché, du bois. Tout ce qui entre dans le coffre de la Fillon, tu le partages. Si je n'étais pas aussi faible, tu serais moins riche. Tiens, un jésuite au bordel. Mais un tout petit.
Mais oui, monseigneur. Y voyez-vous quelque inconvénient?
Non, si c'est pour la plus grande gloire de Dieu.
Sait-on jamais?
J'ai déjà vu au bordel des capucins, des moines mendiants, des récollets, mais des jésuites, jamais.
C'est qu'ils viennent généralement en habit laïque.
C'est une explication.
Ah, Philippe. Seriez-vous fâché que le père Burdeau, qui est mon confesseur, se joigne à nous?
Cette nuit?
Ben oui, justement cette nuit, comme ça verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser.
Longue saucisse et courte messe, comme disait ma mère.
Une belle profession de foi, n'est-ce pas?
Émilie, Picard sera là?
Oui, je viens de le raser.
Il m'a très bien baisé l'autre nuit.
Vous en a parlé? J'étais là, madame. J'ai tout vu.
J'avais oublié.
Bertrand Tavernier, Que la fête commence, un film de 1975 avec Philippe Noiret qui joue le régent et Jean Rochefort qui joue l'abbé Dubois. Ulysse Jardin, mais qui est cet abbé Dubois?
L'abbé Dubois, c'est un personnage à la trajectoire assez fascinante, puisque c'est en fait l'ancien précepteur de Philippe d'Orléans. Il est issu d'un milieu relativement modeste, et donc il fait partie de ces personnalités qui franchissent différentes barrières sociales grâce à leur entrée dans les ordres. Et donc, c'est quelqu'un qui, par le pouvoir qu'il a un peu comme le grand frère, on pourrait dire en tout cas, notamment en écoutant cet extrait de Que la fête commence, le grand frère de débauche du régent, qui a donc un véritable ascendant sur lui, mais c'est aussi quelqu'un qui, durant la régence, quand on essaye d'avoir le regard, en tout cas objectif de l'historien d'aujourd'hui, a un rôle diplomatique plus qu'important, puisque la France de 1715 est ruinée, et donc elle ne peut plus se permettre de faire la guerre. L'effort de guerre a été... A occasionné beaucoup de sacrifices durant le règne de Louis XIV, et donc simplement pour des raisons financières, on est obligé d'obtenir la paix en France et d'une certaine manière en Europe. Et donc l'abbé Dubois est celui qui va être à la manœuvre diplomatique et qui va permettre de rétablir cette paix, une paix qui va durer non seulement le temps de la Régence, mais aussi le règne de Louis XV. Et donc c'est quelqu'un qui a, en tout cas, au moins une double facette, un peu comme Janus, de la même manière que Philippe d'Orléans, qui d'ailleurs se lève très tôt pour travailler toute la journée entre 6h et 17h et qui ensuite renvoie même sa domesticité à partir de 17h pour avoir ces fameux mystérieux petits soupers où est convié l'abbé Dubois notamment et donc certaines danseuses de l'opéra entre autres.
Voilà, donc c'est ce regard coquin que nous pouvons porter sur la Régence et ça qui a vraiment traversé les siècles, mais la Régence ce n'est pas que cela et ce que j'entends ici c'est la paix. Ça c'est très important, je l'ai dit, Los Llanos José, c'est la paix parce qu'il y a une inversion des alliances. C'est un moment, 1715, où après 72 ans de règne de Louis XIV, la France... Et un nouveau positionnement diplomatique en Europe.
Comme le disait Ulysse à l'instant, la paix est une nécessité pour des raisons financières. Tous les historiens s'accordent à dire cela. La France n'a plus les moyens de faire la guerre. Et si une nouvelle guerre devait éclater, elle risquerait de perdre une grande partie, si je puis dire, de son pouvoir et sa légitimité en Europe. La Régence, c'est aussi un moment d'une certaine faiblesse du pouvoir. Le régent n'a pas tous les pouvoirs d'un roi. C'est ce qui est d'ailleurs décliné un peu plus loin que l'extrait que vous avez fait entendre du film de Tavernier, où on voit un régent un petit peu mélancolique qui regrette de ne pas avoir tout le pouvoir qu'il voudrait avoir. Et donc, c'est un moment où il faut jouer en quelque sorte d'une grande finesse politique et diplomatique en Europe. Le régent est certainement anglophile. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est très curieux de ce qui se passe à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, qu'il s'agisse d'ailleurs d'art, de musique, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, ou de diplomatie. de pensée. On sait qu'il y a tout un courant de pensée lié à la fois à la politique et aux finances qui vient d'Angleterre. Donc le régent est très curieux de tout cela. Et le cardinal Dubois aussi. Dubois est aussi anglophile, anglophone. Et c'est quelqu'un qui s'est approché assez vite, si je puis dire, des milieux intellectuels et culturels anglais. Et lorsqu'ils arrivent tous les deux au pouvoir, si je puis dire, enfin d'abord Philippe d'Orléans, bien sûr, en 1715, mais dans son ombre se trouve toujours Dubois, l'abbé Dubois, qui sera cardinal ensuite en 1721. Il décide effectivement qu'il faut rétablir la paix en Europe. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il le décide depuis Paris, et ils vont réussir à embarquer dans leur désir et dans leur entreprise leurs ennemis d'hier, l'Angleterre, la Hollande, un peu plus tard le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les trois grandes puissances politiques, maritimes et économiques d'Europe, dans un traité qui va d'abord être, comme vous le disiez justement tout à l'heure, un retournement d'alliance. Les alliances anciennes, celles qui dataient de la fin du règne de Louis XIV, sont retournées, et donc on s'allie avec les anciens ennemis. Et on va rétablir la paix en Europe, une paix qui sera durable d'ailleurs, qui va durer plus d'une vingtaine d'années. Le dernier pays, c'est un peu un paradoxe de cette histoire, à être un peu laissé en retrait, si je puis dire, dans les premières années de ces traités, c'est l'Espagne. C'est un peu paradoxal parce que sur le trône d'Espagne se trouve un des petits-fils de Louis XIV, donc un cousin ou un oncle plus exactement du petit Louis XV. Mais l'Espagne joue les trublions en Europe à ce moment-là, en essayant de gagner des territoires en Italie, notamment contre le Saint-Empire romain germanique. Donc réunir autour de soi la Hollande, l'Angleterre, le Saint-Empire contre l'Espagne, déjà c'est un coup de force. Saint-Simon, encore lui, si je puis dire, en est particulièrement choqué. Pour lui, c'est vraiment une révolution, au sens propre du terme. Et à la fin de cette période, donc à la fin de la Régence, le cardinal Dubois et Philippe d'Orléans réussissent à nouveau retourner, encore une fois, les alliances, pour se rapprocher à nouveau de l'Espagne, notamment avec le mariage, les fiançailles du petit Louis XV avec la fille du roi d'Espagne. Et à ce moment-là, effectivement, la paix est établie en Europe. C'est un des éléments vraiment fondamentaux de cette période qu'est la Régence, qui va avoir beaucoup d'innovations financières, politiques, etc. Mais cette innovation diplomatique, la paix en 1715 en Europe, c'est véritablement une innovation.
Et puis tout est lié, bien sûr, parce que, nous l'avons bien dit, les finances du royaume vont mal à la mort de Louis XIV. La paix est une nécessité pour éviter la guerre, parce que la guerre, ça coûte cher. Pauline Lemaigre-Gaffier, vous avez, dans les années Lumière, avec vos co-auteurs, hein, Raoul Markowitz, toute une étude du système financier de cette France du XVIIIe siècle avec la ferme. Et c'est vrai qu'on comprend clairement par ce discours, cette narration sous forme de bande dessinée, comment il était compliqué de faire rentrer de l'argent qui bénéficie à l'ensemble du pays.
Alors si c'est clair, c'est une satisfaction, puisqu'effectivement, la question fiscale est absolument centrale pour comprendre le fonctionnement de l'État monarchique. Alors, les historiens ont mis beaucoup l'accent longtemps sur la fiscalité directe, hein, sur la question de la taille, beaucoup de gens étant exemptés, hein, de la taille au XVIIIe siècle, un certain nombre de privilégiés qui ne sont pas que les nobles d'ailleurs. Mais effectivement, dans l'album, nous avons choisi de mettre aussi l'accent sur la fiscalité indirecte et sur le fonctionnement donc de cette administration gigantesque qui était devenue au XVIIIe siècle la ferme générale et qui est véritablement un exemple de ce qu'a pu être la bureaucratisation de l'État royal au XVIIIe.
Ça fonctionne comment, la ferme générale ?
Alors c'est donc un système extrêmement complexe qui consiste à affermer, c'est-à-dire à déléguer la perception des impôts indirects sur les produits qui circulent dans le royaume à tout un groupe de financiers, les fameux fermiers généraux, dont un des plus célèbres est le chimiste Lavoisier par exemple, et alors déléguer donc la perception de ces impôts, et ce qui leur permet évidemment aussi de spéculer sur cet argent. Mais le fait qu'ils en tirent des profits qu'on considérerait aujourd'hui comme des profits personnels ne signifie pas pour autant qu'ils ne mettent pas en place une véritable administration qui a tous les traits de la rationalité fiscale et bureaucratique d'un État qui se transforme profondément au XVIIIe. Et mettre l'accent sur la ferme, c'était donc aussi mettre l'accent sur la contrebande, qui est un des aspects absolument fondamentaux du fonctionnement économique du royaume au XVIIIe siècle, avec la circulation donc de produits. Alors on a moins parlé du sel, mais on a choisi de mettre l'accent sur des produits qui transforment les consommations au XVIIIe, le tabac, les cotonnades et les livres, puisque c'est bien ce que vend notre ami Favarger.
Et oui, parce qu'il y a des taxes hein, sur le papier, sur les livres. Alors donc, c'est publié en Suisse. Et puis en plus, ça permet de publier des ouvrages dont les idées ne correspondraient pas tout à fait à ce que souhaite le pouvoir.
Exactement. C'est-à-dire que la STN a deux créneaux. Donc effectivement, les livres interdits, les livres clandestins qui n'ont pas reçu l'approbation de la censure royale. Et donc on cite notamment dans l'ouvrage les anecdotes sur Madame du Barry, qui a été un des best-sellers de la STN. Mais il y a un autre créneau qui est celui de la contrefaçon et qui consiste donc à rééditer ou réimprimer, parfois avec de légères modifications, des ouvrages qui ont reçu un privilège, c'est-à-dire théoriquement une autorisation d'édition exclusive dans le royaume de France, mais évidemment de les vendre moins cher et d'en accroître du coup la diffusion.
La STN, je rappelle, c'est la société typographique de Neuchâtel en Suisse. Cette histoire du XVIIIe siècle et particulièrement du temps de la Régence est une histoire d'argent.
Lundi, je pris des actions. Mardi, je gagne des millions. Mercredi, je pris équipage. Jeudi, j'arrangis mon ménage. Vendredi, je m'en fus au bal. Et samedi, à l'hôpital.
Justement,
Justement, nous y sommes. C'est ici le moment où l'on dit l'as ou l'eau. Alors, tour de table, José de los Llanos, vous dites le système de...
De l'as. Moi, je dis le système de l'as parce que, notamment dans les poèmes, dans tous les poèmes satiriques, les chansons de l'époque, on fait rimer l'as avec as. Donc, ça atteste de la prononciation du temps.
Et avec hélas. Pauline et Lemaigre-Gaffier.
Oui, je crois qu'avec mon collègue, nous sommes restés sur l'as, un héritage de notre formation, sans doute.
Ulysse Jardin, mais l'eau, L-A-W, c'est aussi la prononciation qui s'est imposée pendant longtemps. Hein.
Exactement, et moi je dis surtout qu'hélas, le système est tombé à l'eau.
Voilà, au moins c'est très clair. On va surtout rappeler quel était ce système, José de los Llanos. C'est quoi ce système qui est mis en place sous la Régence et qui est décrié, c'est certain, vu qu'il a échoué, mais qui est une véritable innovation sur la finance du royaume?
Alors, c'est une innovation, effectivement, et de taille, puisque pour la France, en Angleterre, il y avait eu quelques expérimentations économiques déjà un petit peu plus révolutionnaires, mais pour la France, effectivement, l'installation du système procède de plusieurs innovations radicales. La première, on l'a évoqué tout à l'heure avec la question des impôts, c'est la volonté. Alors, John Lass est un économiste écossais, enfin, qui vient d'Écosse, et qui est appelé, enfin, qui se présente au régent et qui lui propose un système révolutionnaire pour remettre les finances du royaume en ordre. En gros, c'est toujours la même histoire. La France est ruinée, donc il faut qu'on trouve le moyen de la sortir de cette ruine. Donc John Lass arrive et propose en plusieurs étapes. D'abord, effectivement, la réunion des impôts. Il considère, et je pense qu'en bon économiste, ça paraît raisonnable, que pour maîtriser les finances, il faut qu'il maîtrise les rentrées d'argent. Donc il demande à maîtriser les impôts. Dans une deuxième étape, il va demander aussi à réunir tout ce qui est compagnie de commerce, notamment avec les colonies. Là aussi, c'est un moyen, en quelque sorte, de maîtriser toutes les rentrées d'argent en France. En troisième étape, il va créer une banque, et là c'est une innovation pour la France. En Angleterre, il existait déjà une banque centrale, mais une banque d'abord générale, puis devenue, qui va devenir banque royale, va être créée à Paris. Et puis quatrième étape, c'est l'élément le plus célèbre, c'est l'invention du papier-monnaie. Là, qui pour le coup est proprement révolutionnaire. Au musée, nous présentons dans l'exposition quelques billets de banque de cette période-là, et des billets de 10, 100 et 1000 livres au tournoi, et je signale aux visiteurs, enfin aux personnes que j'accompagne, que 1000 livres au tournoi, ça équivaudrait à peu près à 15 000 euros aujourd'hui, pour un petit bout de papier qui est la taille d'une carte postale, et qui donne pas véritablement confiance. Donc on imagine effectivement toute la problématique de cette invention du papier-monnaie, revenir sur le fétichisme en quelque sorte attaché à l'argent métal, et puis le fonctionnement qui doit en découler. Alors pour dire les choses rapidement, le système s'effondre en 1720, par une banqueroute, banqueroute termine par une banqueroute, c'est un échec sans être totalement un échec. Les finances du royaume ont été rétablies entre-temps, notamment grâce à la spéculation effrénée qui a sévi dans toute la France à cette époque-là. Le royaume étant à la tête de ce système, a réussi à se désendetter, notamment au moyen de l'émission de papier. Il y a un peu un côté, on fait marcher la machine à billets. Et effectivement, l'État, de ce point de vue-là, s'en sort. Certaines autres institutions, comme l'Église, s'en sortent moins bien. Il y a un certain nombre de petits spéculateurs ou de petits épargnants qui se trouvent très affectés, voire ruinés. Enfin, c'est un sujet, d'ailleurs, sur lequel les historiens ne sont pas tous d'accord aujourd'hui. Au final, donc, c'est la banqueroute. On renonce au système de l'émission de papier-monnaie. John Laspar fuit Paris en décembre 1720. Il va à Venise où il retrouve une de ses anciennes passions, si je puis dire, qui est le jeu. Parce que économie et monde du jeu, en quelque sorte, faisaient bon ménage à l'époque. On revient à ce moment-là à l'argent métallique. Mais les finances du royaume, le commerce et tout ce qui est activité, notamment artisanale, liée à l'effervescence qui a eu lieu à Paris à ce moment-là. Quand le roi revient à Paris en 1715 et que le pouvoir politique revient à Paris, c'est le pouvoir qui l'accompagne, c'est les administrations, mais c'est à peu près 10 000 personnes qui reviennent de Versailles à Paris. Donc imaginez toute l'activité économique qui tourne autour de cet afflux soudain de personnes, dont certaines très riches, participant à l'élite. Donc, je ne suis pas économiste, alors ne m'en demandez pas trop, peut-être que ma collègue en donnera plus de détails, mais il y a ce côté effectivement un peu miraculeux ou merveilleux, comme dit Arnaud Aurin qui a écrit un livre sur le sujet, que le système fonctionne pendant un certain temps, remet les finances du royaume sur les rails, et puis après s'effondre, mais la France s'en tire bien.
Pauline Lemaigre-Graffier, oui, bien sûr, ce 18e siècle est un siècle florissant. C'est intéressant toujours de réfléchir à nos représentations des différentes périodes, avec un 17e siècle glorieux qui est celui de Louis XIV, mais qui, pour la population, est un siècle très difficile, ce 17e siècle. Ce 18e siècle, c'est différent. Et vous vous en amusez dans cette bande dessinée, Les Années-Lumière. C'est ce siècle où tout est possible, avec quelque chose aussi lié à l'idée de prospérité. Enfin, en tout cas, les gens espèrent s'enrichir. Ils le réussissent pas toujours.
Alors, en effet, on a voulu vraiment mettre les enjeux économiques au cœur de l'album. Et sous deux angles, en fait. D'une part, effectivement, du point de vue des consommations des gens ordinaires, des entreprises économiques. Et donc, en soulignant que le livre, c'est aussi une entreprise économique et pas seulement une entreprise intellectuelle. Mais on a aussi voulu mettre l'accent, en fait, sur l'importance de l'économie politique au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que cette discipline, entre guillemets, qui émerge au XVIIIe siècle est vraiment au cœur de l'émergence d'une pensée nouvelle. Et en matière d'économie politique, comme dans d'autres domaines, il y a toute une diversité d'opinions qui s'expriment. Et le XVIIIe siècle, c'est le moment de l'affirmation de ce qu'on appellera ensuite le libéralisme économique, avec le souci de fluidifier les échanges, de faciliter le passage des frontières. Donc, du coup, la contrebande, c'est un moyen de bricoler et de s'accommoder des empêchements qui s'imposent alors. Mais il y a aussi d'autres discours qui parcourent en fait tout le XVIIIe siècle. Et de ce point de vue-là, ce qui se joue avec le système de l'As est extrêmement intéressant. Et vous évoquiez le livre d'Arnaud Aurin, en fait, sur la politique du merveilleux, et ce que montre aussi Arnaud Aurin, et on l'évoque dans un des dossiers pédagogiques à la fin de l'album, c'est le fait que, certes, ça c'est un plutôt mal fini avec cette banqueroute, avec un diagnostic difficile à établir, que ce soit pour l'État ou pour les populations. Mais en revanche, ce qui survit tout au long du XVIIIe siècle, c'est cet imaginaire de l'enrichissement pour tous, qui n'est pas que de la débauche, mais une possibilité d'égalisation des conditions.
Vous citez un livre d'Arnaud Aurin, donc grand livre d'histoire pour réfléchir au XVIIIe siècle. Moi, j'en cite un autre, celui de Paul Féval, Le Bossu, adapté en film par Philippe de Broca.
Il n'y a rien à expliquer, soyez patients, ça remontera.
Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça remontera? Ça aurait donc descendu?
Mais vous n'avez pas tout ce à vous faire. Tant que la banque est ouverte, vous pouvez toujours vous faire rembourser. Et ayez confiance.
Confiance? Moi, je n'ai pas confiance. Moi, je revends tout de suite 4000 mamas.
Non, ne l'écoutez pas, tout va très bien. Si vous vous laissez faire à ce jeu, dans une heure, ce sera 3000.
3000 à 4, j'y laisse déjà ma chemise.
Qui m'achète à 4? Les courbesses, bossu, tu dois nous informer.
Ah, les courbesses, il s'agit bien de ça, hein? Alors que nous sommes au bord de la banqueroute.
La banqueroute! La banqueroute! La banqueroute!
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Daniel Auteuil est le bossu dans ce film de Philippe de Broca. Ulysse Jarda, le bossu évolue à Paris. La Régence à Paris, c'est cette exposition au musée Carnavalet. Paris devient le lieu de la Régence. On l'a évoqué tout à l'heure, à la mort de Louis XIV, il y a ce déplacement de la cour. Mais la cour n'habite pas, comme c'est à Versailles, dans le même palais. Là, le roi s'installe, on est au Louvre, on est aux Tuileries, mais la cour est dispersée un peu dans la ville. Donc pour Paris, c'est un moment de révolution sociale. Ça y est, ils reviennent, ces courtisans.
Oui, c'est vraiment un grand moment de révolution sociale puisque tout se concentre dans le même lieu, dans la même ville. Et donc c'est une parenthèse entre en effet un moment, en tout cas où le pouvoir a été à Versailles jusqu'en 1715 et où il reviendra à Versailles dès la fin de la Régence, à partir de 1722 avec déjà le roi lui-même, puis définitivement en 1723. Alors que là, pendant ces quelques années, tout se passe dans cette ville qui d'ailleurs est la deuxième ville d'Europe, avec 1,5 million d'habitants déjà, sachant qu'en plus les frontières sont plus ténues que celles qu'on a aujourd'hui. Donc il y a une concentration urbaine énorme. Il y a presque, comme on le voit d'ailleurs dans cette rue Quincampoix, des bousculades dans un Paris qui est déjà saturé d'une certaine manière. Et d'ailleurs, toujours pour parler de la densité de population, on a justement, durant cette période de la ruée vers l'or du système de l'eau, plusieurs dizaines de milliers d'habitants supplémentaires qui viennent justement tenter de faire fortune dans la capitale.
Oui, parce que c'est ça, hein. C'est une ville qui est observée, alors pour ce qu'elle a de foisonnant dans tout ce qui concerne la culture, les arts, la littérature, mais pas seulement, c'est ce bouillonnement, les gens viennent à Paris. Paris, c'est, on la présente souvent cette ville comme incontournable au 19e siècle, mais là, dans cette période de Régence, on va retrouver un peu ça.
Exactement, et donc il y a d'ailleurs plusieurs visiteurs importants qui s'invitent un petit peu, on parlait tout à l'heure de diplomatie, il y a un pays d'ailleurs qui n'a pas d'alliance officielle avec la France, il y a même d'ailleurs deux puissances au-delà même des frontières de l'Europe, en partie en tout cas, qui s'invitent à ce moment-là à Paris. En 1717, la Russie avec le tsar Pierre le Grand, qui fait partie d'une certaine manière de ces visiteurs qui veulent d'ailleurs tout voir à Paris, qui entraînent le petit Louis XV avec lui dans quantité de découvertes quotidiennes. Et puis ensuite, en 1721, Mehmet Efendi, qui est l'ambassadeur de la Sublime Porte, donc de l'Empire Ottoman, qui vient aussi. Et donc, dans les deux cas, diplomatiquement, il n'y a pas vraiment d'avancée avec ces deux visiteurs. Au demeurant, ils viennent à Paris puisque c'est le lieu qu'il faut connaître, qu'il faut voir, le lieu de tous les possibles.
José de los Llanos.
Oui, c'est lié aussi effectivement autour de Paris dans la diplomatie européenne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est Paris qui réussit à imposer à tous ses partenaires européens la paix. Et donc il y a une sorte de curiosité qui se dirige vers Paris, comme la Nouvelle Rome. Elle est souvent décrite comme ça, pour toutes les qualités effectivement artistiques, urbanistiques, d'invention, mais aussi pour cette place politique et diplomatique de premier plan. Et lorsque Pierre le Grand effectivement vient à Paris, c'est aussi un ennemi potentiel d'un des alliés que j'ai signalé tout à l'heure, le Saint-Empire romain germanique. Et de même, encore plus, pour Mehmet Efendi, l'Empire ottoman, qui est aux portes de l'Europe, aux portes orientales de l'Europe, et qui se bat à ce moment-là contre le Saint-Empire romain germanique. Donc Dubois et Philippe d'Orléans arrivent à maintenir ces alliances vraiment révolutionnaires avec leurs partenaires, ennemis d'autrefois, et ils arrivent quand même à recevoir des gens de l'extérieur qui sont aux frontières et qui viennent pour visiter Paris et et ne pas, en arrivant à ne pas perturber cet équilibre fragile de la paix qu'ils ont réussi à établir.
Dans ce moment régence, il y a des personnages extraordinaires. On l'a dit, l'abbé Dubois, Louis XV, évidemment, le régent, c'est certain. Et puis tant d'autres, Pierre le Grand, qui est là, qui est immense d'ailleurs, à côté du tout petit Louis XV. Oui, des personnages incroyables. Et d'autres, issus du peuple, Cartouche.
Un Cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien l'a fait pincer dès le matin. On l'a mis au cachot avec un fort bondrille, sans couteau ni ciseaux, ni marteau ni faucille. Leurs mains ont fait un trou chez le voisin. Il dit à la question, je ne suis pas Cartouche, je suis Jean Bourguignon, je ne crains point vos douches. Je suis Lorrain de nation, je suis Lorrain. On le mena jeudi à la place de Grève, tout y était si rempli. À tout le monde y crève. Puis on l'a fait sortir de sa prison. En montant l'escalier de l'hôtel de ville, il dit au bon palier, ami, je suis débile. Donne-moi un verre de vin, mon cher ami. On dit qu'il accusa grand nombre de personnes, des pays étrangers, des femmes aussi, des hommes. Il fut exécuté le vendredi.
La complainte de Cartouche, chantée par Al Colombe. Cartouche roué vif, place de Grève, à Paris, le 28 novembre 1721. Nous sommes en plein pendant la Régence. Pauline Lemaigre-Gaffier, c'est ça aussi, cette histoire qui s'écrit, cette histoire des années-lumière. Je reprends le titre de cette bande dessinée publiée par La Découverte. C'est une histoire populaire avec des grands noms. Là, on a cité Cartouche, on pourrait dire Mandrin aussi.
Merci de faire le lien, effectivement, entre cette figure de Cartouche et celle que nous avons choisi d'évoquer dans l'album, mais qui présente bien sûr beaucoup de similitudes dans le parcours et aussi dans l'image qui en est restée dans la mémoire collective et qui a été transmise notamment par des chansons qui sont extrêmement importantes pour la transmission de cette culture, on va dire, populaire. Donc effectivement, nous avons évoqué à plusieurs reprises Mandrin dans l'album, en lien là aussi avec un ouvrage qui était important pour nous, celui de Michael Kwas, qui se saisissait de la figure de Mandrin et de ses son activité de contrebande, donc dans le domaine du tabac et des cotonnades, pour expliciter en fait les mécanismes en Europe de la mondialisation de la consommation de certains produits. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, c'est-à-dire de montrer qu'il n'y a pas de transformation de la société du XVIIIe siècle, de ses pratiques économiques, de ses pratiques de consommation, sans ces acteurs qui n'ont en général pas été mis en avant.
Oui, parce que c'est ça, cette histoire-là, évidemment, où tout est lié, et c'est une histoire mondiale. Et pour pouvoir consommer ces produits qui viennent du bout du monde, ça oblige à évoquer tout ce système de l'esclavage, des plantations. Et tout ça nous conduit de nouveau à Paris, auprès du régent, pour des soupers avec le duc de Saint-Simon.
Ses soupers étaient toujours en compagnie fort étrange. Ses maîtresses, quelquefois une fille de l'opéra, souvent Madame la Duchesse de Berry, et une douzaine d'hommes, tantôt les uns, tantôt les autres, que sans façon il ne nommait jamais autrement que ses roués. C'est en ces séances où chacun était repassé, les ministres et les familiers, tout au moins comme les autres, avec une liberté qui était licence effrénée. Monsieur le duc d'Orléans y tenait son coin, comme les autres, mais il est vrai que très rarement tous ces propos lui faisaient-ils la moindre impression. On buvait d'autant, on s'échauffait, on disait des ordures à gorge déployée et des impiétés à qui mieux mieux. Et quand on avait bien fait du bruit et qu'on était bien ivre, on s'allait coucher et on recommençait le lendemain.
Ah ben une présentation à la fois joyeuse et sombre de la Régence par Saint-Simon. Ulysse Jarda, il faut se départir de cette image-là parce que, oui, d'accord, le Régent avait ses petits soupers. Mais en parallèle de tout ça, c'est une qualité de vie qui s'impose. C'est quelque chose peut-être de festif, mais qui côtoie cette histoire mondiale qu'on évoquait, où l'on peut consommer du café, du thé, du sucre, ça vient des îles. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans cette effervescence parisienne du temps de la Régence, et qui transparaît surtout. Hein. Vous êtes conservateur du patrimoine au musée Carnavalet, responsable du département des décors mobiliers et arts décoratifs. La Régence, ça a produit de belles choses.
Exactement. Et donc, simplement, avant de parler des arts décoratifs, rappelons tout de même que Saint-Simon, c'est d'une certaine manière le meilleur ennemi de Philippe d'Orléans, puisque d'ailleurs, c'est son allié politique. Et donc, il se voit quasi quotidiennement comme de meilleurs amis. Mais Saint-Simon, qui n'a pas en tout cas le même goût, notamment pour les femmes que Philippe d'Orléans, n'est jamais invité à ces petits soupers qu'il décrit rétrospectivement peut-être d'une certaine manière jalousement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, à Paris, durant cette période, s'impose un nouveau goût pour le luxe. D'ailleurs, dans le cercle des modernes qui promeut le système de l'eau avec un jeu de propagande très subtil, on veut que la dépense soit une nouvelle mode, et donc on veut que ces nouveaux objets de luxe, que ce goût qui change quasi quotidiennement, soit donc promu à Paris. On achète chez Gersin, qui devient à ce moment-là d'ailleurs un marchand mercier, donc qui ne vend pas uniquement des tableaux, mais aussi des objets montés, donc des porcelaines importées de Chine, qui sont agrémentées en Europe avec de l'argent, de l'or. On a tous ces hôtels particuliers avec donc le retour de la cour, c'est quand même 10 000 personnes en tout à Paris à ce moment-là. Donc on a des constructions qui avaient déjà commencé à être bâties un peu avant la Régence, mais qui en tout cas s'embellissent. C'est le cas par exemple de la place Vendôme. On avait ces façades monologues en fait, derrière lesquels on n'avait pas encore de construction, en tout cas d'appartements définis. Et puis à ce moment-là, on a des boiseries qui sont sculptées, qui sont peintes par Watteau, Lancret. Et donc, on a une nouvelle manière de promouvoir le luxe. Et d'ailleurs, l'Europe entière vient à Paris faire ses emplettes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a ce qu'on a appelé le style Régence, qui vraiment connaît son âge d'or, qui est un style aussi de transition, mais qui, dès les années 1700, a ses premières manifestations et qui dure d'ailleurs, en fait, bien après la fin politique de la Régence, puisque au moins jusque dans les années 1730 ou 1740, on a encore ce style qu'on va ensuite appeler Louis XV ou Rocaille, qui continue à se manifester.
Oui, les arts. Très important, les arts. José de los Llanos, on peut vraiment dire qu'à travers la figure du Régent, et là, c'est toujours intéressant de s'arrêter sur un personnage, on est au croisement des arts, car le régent lui-même est peintre, et on le voit dans l'exposition au musée Carnavalet, monsieur a du talent quand même.
Oui, oui. Alors c'est un touche-à-tout de génie. Tout le monde l'avait observé depuis sa jeunesse. Saint-Simon, encore lui, le critique d'ailleurs ce sujet-là, considérant qu'un prince ne doit pas peindre lui-même, ne doit pas faire de la musique lui-même. Mais le Philippe d'Orléans, effectivement, aime tout, est curieux de tout, et quand il aime quelque chose, il aime le pratiquer. Alors vous parlez de la peinture, on aurait pu parler de la chimie. Il y a au musée, pendant l'exposition, un four d'alchimiste qui est présenté, qui est un objet tout à fait extraordinaire, qui n'a jamais été exposé, qui appartient aux collections du musée de Sèvres. Et il est peintre, effectivement, et il peint, alors avant la Régence, là tous les historiens s'accordent à dire que, c'est ce que rapportait Ulysse tout à l'heure, pendant la Régence, c'est un homme très affairé, très occupé, et très soucieux, effectivement, des affaires publiques. Donc il arrête de peindre, et il arrête de jouer de la musique lui-même. Mais auparavant, effectivement, juste avant, Louis XIV l'avait un peu délaissé, et lorsqu'il avait du temps pour ses divertissements, sa mère en parle très souvent aussi, il peint, et il a réalisé une série de tableaux sur le thème de Daphnis et Chloé, roman érotique qui va bien avec l'image que l'on se fait du régent, pour le château de Bagnolet en 1714, et pendant la Régence, là on revient à l'époque de la Régence, il fait notamment réaliser une tapisserie, une tenture de 4 tapisseries d'après ses tableaux, entre 1718 et 1721, par la manufacture des Gobelins, pour le Palais Royal. Et ces tapisseries sont exposées au musée. Elles donnent une bonne impression, si je puis dire, des talents de composition picturale du régent. Ces tapisseries n'ont jamais été vues à Paris depuis la Révolution.
Et le régent est musicien. Rendez-nous la lumière. Armide, c'est Philippe d'Orléans.
Alors je reviens sur la programmation musicale, les extraits musicaux que vous avez passés depuis tout à l'heure, qui correspondent d'ailleurs à certains extraits qu'on entend aussi dans l'exposition.
Et pareil pour les extraits de films, parce que dans l'exposition,
les extraits de films aussi, voilà. Aussi bien Le Bossu que La Fête Commence sont diffusés. Le régent est musicien, effectivement, et il aime beaucoup s'entourer de musiciens. Il aime beaucoup la musique italienne. Ça lui revient sans doute de ses années lors d'expéditions militaires en Italie au tout début du XVIIIe siècle, où il a découvert ce pays, il a découvert la peinture, la musique italienne. Et il est compositeur. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel pour un prince de cette époque-là. Jouer de la musique, c'est assez courant à la cour. Il pratique quasiment tous les instruments, basse de viol, flûte, clavecin, il chante, mais il compose. Et on a conservé de lui deux opéras, peintés, joués en 1705 pour quelques représentations simplement à la cour. Et puis la Jérusalem délivrée ou la suite d'Armide, effectivement, composée, enfin, jouée et interprétée en 1703. Et là aussi pour quelques représentations uniquement. Ce sont deux opéras qui ont été complètement oubliés, qui n'ont jamais été édités, dit-on par volonté du régent lui-même. La princesse Palatine disait, en tous les cas sa mère, disait qu'il avait toujours refusé qu'on interprète ses opéras en public. C'était vraiment son domaine caché, mais c'était sa passion. Et ses opéras n'ont jamais été interprétés jusqu'à maintenant. Et juste cette année, au début du mois de juillet, à Versailles, il y a eu une représentation unique de la Jérusalem délivrée de Philippe d'Orléans, et qui va donner lieu d'ailleurs à l'édition d'un CD l'année prochaine. Et on a en avant-première dans l'exposition quelques extraits de cette Jérusalem délivrée, qui est un peu un opéra mythique, inconnu, mystérieux, si je puis dire, œuvre du régent.
Il est un peu moins mystérieux grâce à vous, la Jérusalem délivrée. Ça vient du poète italien, Le Tasse. Italien,
tout
parce que la Régence, c'est aussi ce moment où les Italiens reviennent à Paris. Ils avaient été interdits, en tout cas, pour cette comédie italienne, par Louis XIV. C'est aussi cette effervescence-là, la Régence.
Oui, exactement. Et en fait, les comédiens italiens sont interdits en 1697, mais dès 1716, ils reviennent à Paris. Et donc, il y a en effet cette mode italienne. Le régent faisait déjà venir chez lui des musiciens italiens. Il y a aussi des peintres italiens très importants durant cette période, notamment la pasteliste Rosalba Carriera, qui tient d'ailleurs un journal qui est une source très importante, en tout cas pour faire l'histoire de cette période d'aujourd'hui. Et la comédie italienne, en effet, connaît d'ailleurs tout de suite un renouveau de succès. Avant, elle devait se cantonner notamment aux environs de Paris, donc comme troupe ambulante qu'elle avait été depuis déjà plusieurs siècles. Et on a par exemple Marivaux qui fait créer ses pièces à la comédie italienne, et donc qui est plus une émule d'ailleurs qu'une concurrente de la comédie française à ce moment-là. De la même manière qu'on a le bal de l'opéra qui est ouvert à tous, alors moyennant bien sûr droit d'entrée, on a donc dans cette effervescence culturelle de très nombreux événements publics ouverts, et c'est aussi d'ailleurs, pour reparler de musique, la création du concert au sens moderne du terme qu'on connaît à Paris durant la Régence.
Et puis, allez-y. Pour revenir sur le théâtre, simplement, pour faire un lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Cartouche, le rôle du théâtre est essentiel à cette époque-là comme diffusion d'un ressenti politique de la population parisienne, notamment. Et par rapport à Cartouche, il est quand même tout à fait remarquable de savoir que, juste après la mort de Cartouche, donc en novembre 1721, dès l'année suivante, sont jouées aussi bien à la Comédie française que sur la scène de la Comédie italienne, des pièces évoquant la vie de Cartouche. Ça donne, je crois, ça met bien en perspective la manière dont on pouvait se saisir de l'actualité la plus brûlante dans toutes les instances.
Oui, parce que tout le monde était bien informé, contrairement à l'image aussi que nous en avons, les informations circulent très vite. C'est le cas notamment quand Voltaire est embastillé à l'exposition. Il y a cette lettre de cachet qui envoie Voltaire à la Bastille. Voltaire qu'il faut évidemment citer quand on parle du XVIIIe siècle.
Voici le temps de l'aimable régence, temps fortuné marqué par la licence, où la folie agitant son grelot, d'un pied léger parcourt toute la France. Où nul mortel ne daigne être dévot, où l'on fait tout excepté pénitence. Le bon régent de son palais royal, des voluptés donne à tous le signal.
Voltaire qui évoque la régence dans La Pucelle d'Orléans en 1752, Pauline Lemaigre-Graffier dans Les Années Lumière. Bien sûr, tous ces personnages sont là, Voltaire, Rousseau. Et alors, dans cette bande dessinée, ce qui est fascinant, c'est que ils peuvent croiser des historiens d'aujourd'hui qui travaillent sur le XVIIIe siècle.
Oui, exactement. Donc, je me permets de rappeler ici que c'est notamment une tabatière qui est au musée Carnavalet, où figurent face à face Voltaire et Rousseau, dont nous nous sommes inspirés pour une des images de l'album, lorsque réapparaissent les fantômes de Voltaire et Rousseau qui viennent de décéder, ces frères ennemis qui vont dialoguer dans l'album pour faire part de leur vision des Lumières. Et effectivement, ils sont confrontés donc à leurs contemporains, parfois aussi aux hommes du futur, mais également aux historiens qui ont travaillé sur eux, et donc notamment à Robert Darnton, ce grand historien américain, historien du livre, grand explorateur des archives de la Société typographique de Neuchâtel et découvreur de Jean-François Favarger. Et nous tenions à lui rendre hommage, mais aussi à le montrer au travail. Et Favarger le rencontre, et ils ont l'occasion de discuter de la manière dont Darnton a pu montrer que les Lumières se sont indissociablement ces grandes figures, Voltaire, Rousseau, Diderot, leurs œuvres les plus célèbres, mais aussi des œuvres moins connues, comme La Pucelle d'Orléans que vous avez citée, et aussi tout un ensemble de pamphlets, toute une littérature clandestine qu'on a pu parfois qualifier de pornographique. Et évidemment, en se saisissant des archives de la STN, on peut saisir tous ces types de livres, tous ces types de textes en même temps. Et les Lumières, c'est tout cet ensemble.
Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Et cet ensemble-là, c'est aussi la construction, à travers le temps, des représentations. José de los Llanos, c'est par cette exposition au musée Carnavalet, remettre la Régence à sa place, au-delà des clichés qui ont été véhiculés, on l'a entendu aujourd'hui, par Saint-Simon ou par Voltaire.
Oui, la régence, c'est une période très brève. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut le garder en mémoire. C'est ce que vous évoquiez en début d'émission. Après un règne de 72 ans de Louis XIV, avant un règne de 60 ans de Louis XV, en 7 ans, on a l'impression que tout se refait, tout se réinvente en quelque sorte pour créer ce qui fera le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle des Lumières, c'est l'apparition de personnalités de premier plan. On a évoqué Voltaire, c'est les tout débuts de Voltaire. Il n'est que polémiste, il n'est que tragédien, il n'est pas encore du tout le philosophe, mais il commence à faire parler de lui. C'est Montesquieu qu'on n'a pas évoqué, qui publie Lettres persanes en 1721. C'est Marivaux qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est Watteau qui est le grand peintre de la Régence. C'est une période vraiment où on a l'impression que tout se crée alors que le temps court.
Et le temps court aussi pour nous, d'où, vu que c'est le cours de l'histoire, l'occasion de courir en librairie pour retrouver cette bande dessinée des années-lumière de la Régence aux États généraux. Pauline Lemaigre-Graffier, c'est la bande dessinée que vous avez réalisée avec Raoul Markowitz et Simon Spuit à la découverte. Et puis, à Paris, au musée Carnavalet, la Régence à Paris, 1715-1723, l'aube des Lumières. Merci vivement à tous les trois de nous avoir présenté la Régence, le Régent et plus globalement le XVIIIe siècle. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi Charles Quint pleurait-il en public ? La polémique qui a éclaté au mois de septembre 2023 concernant l'abaya, focalisé sur la question de savoir si ce vêtement était ou non un signe religieux, peut être rattaché à une question historique plus générale. Elle concerne le sens que les individus donnent aux symboles qui sont agités dans l'espace public. Je l'aborderai aujourd'hui à l'aide d'un exemple fort éloigné de notre actualité, qui concerne l'un des personnages les plus importants dans l'histoire de l'Europe moderne. Il s'agit de l'empereur Charles Quint. Et plus précisément de la scène de son abdication en octobre 1555. Voici le récit qu'en fit le chroniqueur Prudencio de Sandoval. Après avoir prononcé son discours et n'ayant plus assez de force pour rester debout, Charles Quint s'effondre sur son fauteuil, les yeux baignés de larmes. Devant lui, toute l'assistance médusée pleure à son tour. Ils écoutaient tous ce que disait l'empereur avec beaucoup d'attention et avec des larmes si nombreuses et les sanglots et les soupirs qu'il poussait, qui brisaient des cœurs de pierre. Et l'empereur lui-même pleurait avec eux. Cette scène, décrivant le monarque le plus puissant du monde en pleurs, en train d'avouer sa faiblesse et ses maladies, eut un immense retentissement dans toute l'Europe. Montaigne l'évoqua même dans l'un de ses célèbres essais. La plus belle des actions de l'empereur Charles Ve fut celle-là, à l'imitation d'aucun ancien de son calibre, d'avoir su reconnaître que la raison nous commande assez de nous dépouiller quand nos robes nous chargent et empêchent et de nous coucher quand les jambes nous faillent. La plupart des historiens estiment que cette abdication fut la conséquence de l'état de santé d'un homme très diminué, à la fois usé et désabusé par le pouvoir impérial. Charles Quint souffrait de la goutte, de rhumatisme et d'hémorroïdes qui le faisaient beaucoup souffrir. Bien avant cette scène finale, les observateurs avaient noté qu'à plusieurs reprises, Charles Quint n'avait pas pu réprimer ses larmes, ce qu'ils attribuaient à son tempérament mélancolique. Mais cette thèse a été nuancée par d'autres historiens. À leurs yeux, ces larmes impériales étaient savamment répandues en fonction des occasions, car c'était un moyen de signifier la sincérité, l'intégrité et la piété d'un monarque proche de son peuple. L'empereur, à la larme facile, aurait souvent pleuré en public face à des courtisans, des proches ou des diplomates, mais exclusivement à des fins stratégiques, alors qu'en privé, il serait resté stoïque, pour ne pas dire insensible. La symbolique des larmes apparaît alors comme une dimension de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie du cœur. La question de savoir si Charles Quint pleurait sincèrement ou non est évidemment insoluble. Le plus important pour la recherche historique tient dans l'analyse des interprétations qui ont été données au cours du temps de ces larmes. Les significations attribuées à des signes ou à des symboles sont en effet des enjeux de lutte opposant des commentateurs qui ne partagent pas les mêmes intérêts politiques, religieux, médiatiques ou autres.
Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique d'Alia. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.